et ce qui fait réagir le Québec. Ici, c'est sérieux.
Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
7h55, bientôt 7h56, Denis Grevel qui vient de rentrer en studio. Salut Denis, comment ça va sur la route?
Hello, ça glisse
ouais.
Et c'est slow.
Il y a beaucoup d'incidents, je vois que les gars, ils s'affairent à déneiger, les saleuses aussi, je les vois d'ici. Travaille fort, ça devrait se rétablir dans les prochaines heures. On nous annonçait 2 cm, se sont-tu trompés?
Ben, moi, les dernières prévisions que j'ai eues hier soir, c'était entre 5 et 10 cm au cours de la nuit. Là.
Ouais.
Puis plus un 2 ce matin. Peut-être qu'il n'était pas tout tombé cette nuit, puis que là, le restant est en train de s'étendre. Mais c'est surtout là, dans les accès résidences, dans les accès commerciaux, entrée-sortie d'autoroute, là, j'en ai vu quelques-uns passer un petit peu tout droit. Là. Fait que soyez vigilants, ça glisse, c'est l'hiver.
S'il y a quoi que ce soit, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Plein de choses à jaser, mais je veux te dire que ce matin, ça va partir fort. Tu connais Stéphane Bureau?
Oui.
Aimes-tu Stéphane Bureau?
Ça va par petite dose.
Ça va par petite dose.
Je trouve qu'il est dur à suivre.
Ouais. Moi, je l'aime parce que c'est un mouton noir. Il est complètement différent des autres. Puis c'est pas c'est parce qu'il est à Radio-Canada qu'il va changer son discours. C'est pas parce qu'il est aux côtés de Donald Trump qu'il va changer son discours. C'est un gars qui a sa propre opinion des choses. Puis j'aime la bébite.
Un électron libre.
C'est pour ça que je
l'aime. Ouais.
C'est un électron libre. Puis lui, il anime une époque formidable à Télé-Québec.
Uh-huh.
Et je suis un fan de cette émission-là. Et hier, je regardais pendant le temps que j'étais en train de faire mes trucs dans le studio à Steven, le patron qui est parti, fait que je vole son studio. Et je regardais l'émission, puis je suis tombé sur une autrice. Je suis tombé sur une autrice qui a fait un livre qui est peut-être formidable à cette époque-ci. Mais sérieux, le discours est complètement weird. Puis je voulais présenter ça aux auditeurs.
C'est pas encore la fille de Sugar Daddy, là?
Non, c'est pas elle.
OK.
C'est pas elle. Là, elle, il faut la lâcher. Là. Elle a fait un tour de coffre de char.
Oui.
Faut la lâcher. Puis souhaitons qu'elle ait des gens qui l'aiment beaucoup autour pour l'aider.
Pour l'aider, oui.
Connais-tu l'auteur Suzanne Zakour?
Non, du tout.
Suzanne Zakour. Elle a écrit le livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu? »
Okay.
Je l'ai vu passer il y a quelques mois.
Ah ouais, t'avais vu ce livre-là?
Je l'ai pas lu, étrangement.
Okay. C'est un titre accrocheur. Hein? Je m'étais jamais vraiment posé la question. Là.
Donc voici l'intro d'une époque formidable où Stéphane Bureau présente l'autrice Suzanne Zakour.
Les hommes, les vrais, aimeraient la viande rouge et saignante. C'est peut-être pour ça que mon invité, ma prochaine invitée, a intitulé son livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu? » Suzanne Zakour est antispéciste. Elle est aussi résolument féministe. Je vais la rejoindre à l'instant. C'est un peu du marketing, parce que finalement, Trump est assez accessoire ici.
Oui, donc c'est pas un livre qui parle spécifiquement de Trump, mais de comment notre consommation des animaux et notre exploitation des femmes dans la société sont reliées. Et donc, Trump sert ici de figure un peu de la misogynie. Et pourquoi Trump ne mange pas de tofu? Peut-être parce qu'il est misogyne. Et donc, c'est ce sur quoi porte le livre.
Mais est-ce que tu penses que si on mange de la viande, on est par définition un peu misogyne?
Ce que j'explique dans le livre, c'est que les raisons qui justifient qu'on mange des produits des animaux, les raisons que les gens donnent au fait de manger des produits animaux et les raisons que les gens donnent au fait d'exploiter les femmes ou de commettre des violences conjugales ou sexuelles sont souvent les mêmes. Quand tu dis « j'aime trop ça, je peux pas m'en empêcher, c'est irrépressible, c'est une pulsion de manger de la viande », mais que ça fasse un peu écho à comment est-ce qu'on parle parfois des violences sexuelles dans notre société. Le désir masculin irrépressible, on ne peut pas s'en empêcher, c'est une pulsion, c'est des besoins sexuels.
Je connais beaucoup de femmes qui aiment la viande.
Elle est chum et Claude, c'est sûr, là. Première des choses.
Je sais pas. Mais c'est incroyable la fin de Stéphane Bureau.
Je connais.
Oui. Avec la pause.
Qui mange la viande.
Maintenant. Donc, dès que tu as de l'appétit pour quelque chose, t'es un agresseur et ou un misogyne, c'est ça?
Ouais.
Je sais pas pourquoi, je pense à Émile. ma maladie mentale, je sais, c'est pas génial.
C'est une super de belle chanson, mais dans son cas à elle, dans sa tête, ça a l'air à bien se tenir. Moi, je suis pas dans ce monde-là. Là. C'est la jeune vingtaine. Je ne suis plus dans ce monde-là. Puis j'ai l'impression des fois que, tu sais, je suis out there. Je suis plus dans cette planète-là. Mais on me dit que c'est Planète Montréal.
Mais c'est des hurlus-berlus qu'on peut-être amène à la radio et à la télévision pour faire réagir.
Oh,
là,
oh, ouais, oh,
c'est comme si on amenait...
Ça donne des carrières à radio, Ciboire.
Hein?
Ça donne des carrières à radio, les hurlus-berlus.
Ben oui. Mais je sais pas, il me semble que... En tout cas, moi je vais parler pour moi. Là. Ouais. Je veux dire, quand j'ai une opinion à partager... Je l'invente pas, j'essaye pas de trouver quelque chose de complètement stupide.
Mais dans
et
sa
out
tête,
there,
Denis, tout pour... se tient.
Non, je suis pas sûr.
Moi, je pense que oui.
Je suis pas sûr.
J'en ai des gens comme ça autour de moi, ouais, de cette génération.
C'est ce qu'on dit.
C'est ma génération, Colin, de tabarouette. Puis ces gens-là se croient, puis ont l'impression, parce qu'ils sont entourés d'autres mondes de même, que c'est normal. Puis tu parles de Montréal. Sont beaucoup là.
C'est des chambres d'écho où tu te perds complètement là, pour arriver à des conclusions aussi sottes et aussi déconnectées de ce qu'on pourrait appeler le commun des mortels. Là.
Segment de Suzanne Zakour qui a écrit le livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu », extrait 2, l'effet de la viande.
Parfois, on va même sexualiser ces animaux pour les montrer de façon sexy, donc...
C'est là que
consommable.
Tu dis, on érotise le corps des animaux comme on le fait avec le corps des femmes.
Exactement. Donc, on utilise la logique que si une individu est féminisée, sexy, appétissante, ça la rend consommable ou appropriable. Donc, on voit des publicités où tu as une truie en bas-résille dans une position sexy et qui porte du rouge à lèvres. Et pour, le message implicite, c'est de dire... Ben,
on l'a compris,
comme
en fait.
C'est comme une femme, donc, barre ouvert.
Oui et non, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de faire une association, même devant cette image. Le cochon est ainsi grimé, donc c'est barre ouvert avec les femmes.
Ben, si le message ne s'appuyait pas sur comment on conçoit les femmes et la sexualisation, l'hypersexualisation des femmes et les violences envers les femmes, ces publicités n'existeraient pas. Les publicités existent parce qu'elles font vendre, parce qu'elles envoient un message qui est compris. On se base sur le fait que les gens comprennent que les femmes peuvent être exploitées. Et donc, si on féminise les animaux, ça les rend plus exploitables. Voilà. Et à l'inverse, si on animalise les femmes, ça les rend aussi plus exploitables.
Oui, Denis? Tu sais quoi? Je paierais pour t'entendre faire une entrevue avec... Je paierais, là. Je te paye. 100$ si tu l'invites à 14h après-midi, puis tu...
c'est parce que...
Tu lui demandes de nous expliquer son livre.
J'admire le pince sans rire de Stéphane Bureau.
Ah oui, vraiment?
Moi, je serais pas capable. En tout cas, je pense pas être capable, là. Je me sous-estime peut-être, mais je veux dire, je pourrais pas... Je pense pas que je serais capable de mener la farce assez loin avant de casser puis dire « Hey, madame, on s'amuse, là, mais là, ce que vous racontez, c'est fucking n'importe quoi, puis vous le savez aussi, là. » Je veux dire, mais on vit dans une époque où tous les délires sont permis. Là. Je voyais quelqu'un, parce que c'est des deux bords, puis c'est peut-être les sectes modernes. Je sais pas comment analyser le phénomène. Tu sais, il y a quelqu'un à la Maison-Blanche hier qui a dit, et je cite, en parlant du show de la mi-temps du Super Bowl, pour dénoncer le fait qu'on n'avait pas parlé en anglais pendant la mi-temps du Super Bowl. Il disait, si Jésus avait voulu qu'on parle une autre langue pendant la mi-temps du Super Bowl, il n'aurait pas écrit la Bible en anglais. Il y a tellement de bêtises en une seule phrase que je ne sais même pas par où commencer.
Qui a dit ça?
Si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui travaille à la sécurité de la Maison-Blanche. J'ai vu ça passer. J'ai pas eu le temps de le vérifier, donc c'est sous toute réserve. Tu sais ce que c'est, hein, quand on regarde notre cellulaire en char, on n'a pas tout le temps de double-checker. Hein, gang?
Ouais, c'est un callback, ça.
fallait être là hier. Mais non, c'est, que la quote soit juste ou pas, on vit dans un univers où, malheureusement, pour se rassurer dans nos insécurités de citoyens ordinaires, on est obligé de se tourner vers des hurlus-berlus qui racontent n'importe quoi. Puis nous autres, on se dit, ben au moins, nous autres, on n'est pas complètement barjots, on n'est pas complètement fous, on a encore des liens avec la réalité. Ça, c'est comme se promener en disant que la Terre est plate puis que les vaccins marchent pas. Là, on est à la même place.
Ouais, c'est juste pas cette station de radio-ci. une époque formidable.
T'es-tu capable de me prouver qu'on est allé sur la Lune, toi? Tu l'envoies sur Internet?
Moi, personnellement, non.
Y a personne qui va me faire dire le contraire?
Une époque formidable, c'est à Télé-Québec. C'est animé par Stéphane Bureau.
J'aimerais fournir mes excuses. Finalement, Leclerc Communication fait dire qu'on est allé sur la Lune, je vais être meilleur.
Extrait numéro 3 de Suzanne Zakour. Pourquoi Trump ne mange pas de tofu? C'est son livre. Maintenant, comment on vend la viande?
Parfois, on va même sexualiser ces animaux.
Non, c'est ça.
Ça, on l'a vu.
Comment on vend la viande? Puis là, c'est solution pour la viande.
Okay. Oh. Donc, s'il y avait 20, 30, 40 % de la population qui était végane, ben là, ça commence à influencer l'éducation, les menus, les restaurants, les épiceries. Donc, généralement, la criminalisation ou l'interdiction, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Je pense qu'il va arriver, c'est qu'il y aura plus de production parce que les entreprises qui produisent des produits animaux vont se dire « je vais produire des plantes, je vais faire plus d'argent ».
Merci, Suzanne Zakour. Ça s'appelle « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu
okay. ». Si tu voyais la face des spectateurs...
Ben là, il faut. Ça prend un ancre avec le réel, là. Mais révisons. La fille veut tellement qu'on adopte son mode de vie végane qu'elle... C'est elle qui le fait. Elle sexualise la viande en voulant que les gens qui mangent de la viande se sentent comme des agresseurs sexuels. Et c'est comme ça qu'on va réussir à virer l'industrie de bord pour que tout le monde mange du tofu.
Si tu manges pas de tofu, c'est que...
T'es un agresseur
en devenir. T'es un agresseur sexuel.
Ouais. Tout ça se tient, hein? C'est,
Je me suis fait traiter d'extrême-centre l'autre fois au bar. Puis je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est un merveilleux compliment.
On peut
je suis tellement content d'être d'extrême-centre.
Mais c'est pas le bon bar. Sais-tu pourquoi? Parce que tu te fais insulter des deux bords.
Mais
c'est correct. Quand j'entends des affaires de même, là...
Moi, je veux pas qu'on soit tous à la même place, mais je suis prêt à revendiquer. Vous écoutez Boulevard 102.1, une station d'extrême-centre. Je suis prêt à le mettre dans l'image sonore. Je veux dire, je veux pas être associé à des délires de même. Puis il y en a dans tous les sens présentement. Puis ça me fait peur. Du monde de même, ça me fait peur. Du monde comme la fille qui était à Radio-Canada en fin de semaine, qui se crée au point qu'elle pense qu'il y a un complot machiste qui est là juste pour la faire taire. Là, comme si on s'était tous réunis, les hommes, là. Oh, attention, là, elle a dit quelque chose de sensible en fin de semaine. Comment est-ce qu'on fait pour la faire tomber, la petite Chris? Non, on a juste entendu, hommes et femmes, un tissu de conneries débité par quelqu'un qui n'était pas en mesure de se faire challenger sur quoi que ce soit, puis les gens réagissent de façon épidermique, puis c'est souvent pas mieux, mais c'est normal qu'on dénonce la folie puis l'hérésie autour de nous autres. Là, faut garder nos ancrages. Sans ça, là, je sais pas où qu'on s'en va, là. Moi, quand j'ai faim pour un steak, je suis pas en train d'agresser quelqu'un, là.
Il y a Guillaume...
Souvent, je le partage avec ma blonde, fait que j'imagine qu'on est deux agresseurs, là.
Guillaume, par texto, dit « Je mange de la viande et du tofu, faut-tu que je traite ma blonde comme de la barne, mais juste à moitié? »
À moitié,
ouais. C'est une bonne question, Guillaume.
Puis si tu mets le bloc de tofu dans un bas collant, est-ce qu'on vient de sexualiser un bloc de tofu?
Ouais, c'est vrai. Et là, qu'arrive-t-il à ce moment-là?
Ben là, on mange plus, ça, j'imagine. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut sauver la Terre. Il faut arrêter de se reproduire.
En effet.
Donc, Denis, avant de passer au prochain
fais-moi
sujet...
Fais-moi plus d'affaires de même.
Non, je vais t'en
faire
de plus en plus.
Moi, je sais de parler de nouvelles, de la vie courante, du basic. Là, tu fuck mon pH
juste avant, à la demande générale.
Tu pars pas là demain, hein? Tu me punis, hein?
Une époque formidable. Je vous fais entendre l'intro de Stéphane Bureau avec l'auteur Suzanne Zakour. Pourquoi Trump ne mange pas de tofu? Puis après ça, je vous le dis, c'est une reprise, là. On passe au prochain sujet.
Les hommes, les vrais, aimeraient la viande rouge et saignante. C'est peut-être pour ça que mon invité, ma prochaine invitée, a intitulé son livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Suzanne Zakour est antispéciste. Elle est aussi résolument féministe. Je vais la rejoindre à l'instant. C'est un peu du marketing, parce que finalement, Trump est assez accessoire ici.
Oui, donc c'est pas un livre qui parle spécifiquement de Trump, mais de comment notre consommation des animaux et notre exploitation des femmes dans la société sont reliés. Et donc, Trump sert ici de figure un peu de la misogynie. Et pourquoi Trump ne mange pas de tofu? Peut-être parce qu'il est misogyne. Et donc, c'est ce sur quoi porte le livre.
Mais sûrement. Est-ce que tu penses que si on mange de la viande, on est par définition un peu misogyne?
Ce que j'explique dans le livre, c'est que les raisons qui justifient qu'on mange des produits des animaux, les raisons que les gens donnent au fait de manger des produits animaux et les raisons que les gens donnent au fait d'exploiter les femmes ou de commettre des violences conjugales ou sexuelles sont souvent les mêmes. Quand tu dis « j'aime trop ça, je peux pas m'en empêcher, c'est irrépressible, c'est une pulsion de manger de la viande », mais que ça fasse un peu écho à comment est-ce qu'on parle parfois des violences sexuelles dans notre société. Le désir masculin irrépressible, on ne peut pas s'en empêcher, c'est une pulsion, c'est des besoins sexuels.
Je connais beaucoup de femmes qui aiment la viande.
Je sais que Stéphane Bureau, à un moment donné, a déjà flirté un peu avec l'humour. Je pensais pas qu'il avait un bon sens du punch de même. Franchement, bravo, mais... y a-tu... toi, tu dois le savoir, là, t'as des contacts, puis tout. Y a-tu un bac à fou? À quelque part. Puis quand c'est tranquille dans les ratings, puis tout ça, ils pigent dans le bac à fou, puis ils sortent quelqu'un de même, ils l'envoient sur un plateau, puis ah ouais, fais ton cirque.
Mais c'était quoi le succès de Denis Lévesque à LCN le soir?
Ben c'était ça, là.
Des fois, c'était des sujets sérieux, des fois, c'était des sujets qui étaient tristes, des fois, c'était des sujets drôles, puis des fois, t'avais des hurlus-berlus comme ça qui sortaient, puis ça faisait un show. Les gens ont besoin d'entendre des gens qui pensent pas comme eux, puis qui sortent carrément de la boîte. Tu dis, voyons, non, elle est dans la stratosphère, elle, Simonac.
Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'à part rire, je veux dire, est-ce qu'on avance vraiment la réflexion, la discussion on va piger dans le bac à fou?
Mais est-ce que t'écoutes juste des documentaires?
De plus en plus, j'essaye. J'essaye d'être meilleur.
Max, est-ce que t'écoutes juste des documentaires?
Pas souvent.
OK. Moi, j'en écoute des documentaires.
Alors, Max, j'écoute la lutte aussi, je veux dire. Aussi. C'est quand même.
Mais tu sais, t'as besoin d'être diverti, t'as besoin de rire, t'as besoin d'écouter des films avec ta blonde, des films d'amour, tout ça. Mais t'as besoin des films drôles, t'as besoin des films d'horreur.
Besoin d'évasion.
On a besoin de fucking émotions. Moi, ces gens-là,
ils me donnent des émotions parce que je dis.
Ah. Comment ça peut être explicable?
Je les adore, moi. Je ne fais que rire depuis tantôt. Ouais. Et je suis en bonheur total.
Si j'en crois le texto, il n'y a aucun Denis Gravel qui m'a écrit.
Non. Puis il y a beaucoup de textos.
Mais je soulève un point parce qu'il y en a beaucoup en fin de semaine qui ont écouté la madame de Radio-Canada puis qui étaient vraiment fâchés. Puis qui a traité de nom. Puis moi, j'ai posté là-dessus parce que je trouvais que les filles avaient eu de belles réflexions dans le retour. Puis j'ai comme partagé le lien. Puis j'avais averti. J'ai dit, moi, je lis des insultes puis je vous bloque à mesure. J'ai aucune tolérance pour ça. Puis j'en ai bloqué un. Il m'en reste encore un peu. J'ai fait un beau ménage quand même assez fier. Mais tu sais, je comprends pas la colère quand on entend des choses qui sont autant... déconnecté de la réalité. Je me fâche pas parce que tu me dis que 2 plus 2, ça égale 5, puis que tu le dis fort. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, OK, je peux rire, je peux être découragé du genre humain.
Moi, Elisabeth Lemay, ce qui m'inquiète, c'est sa génération qui va probablement être les parents de d'enfants.
Ouais, mais ça prend un homme pour faire un enfant, elle n'aura pas, là.
Je sais pas.
Je peux te le dire, elle les aime pas beaucoup.
Mes
là.
Gars s'en viennent, ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, puis je pense à eux, puis je me dis, attends un peu, là, ça va être quoi dans 30 ans?
Stresse-toi pas avec ça. C'est minoritaire.
Ah, sûrement.
Sauf que dans
20 ans, Denis, moi, c'est ce que j'entends souvent, là. Tu sais, des gars qui deviennent, qui ont de la difficulté à rencontrer des filles, puis qui veulent plus s'engager. Les filles qui sont fâchées après les gars parce que les gars veulent plus s'engager. Ou les gars qui sont avec des filles, des fois, pour les mauvaises raisons. Je n'aime pas ce que je vois actuellement chez les jeunes de 20 ans. Ils vont réussir à s'en sortir, j'ai pas de stress.
Oui, chaque époque.
Je pensais à mes enfants. Quand j'ai entendu ça, à Radio-Canada, j'ai pensé à mes gars, je me suis dit, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Dans quelle société je vais les laisser? Ouais, puis ils vont passer au travers de ça, j'en suis persuadé. Mais ma critique envers Elisabeth Lemay, c'est un petit peu plus de nuances. Puis là, c'est moi qui le dis.
Fâchez-vous pas. Quand vous entendez des conneries de même, fâchez-vous pas. Restez cool, amusez-vous avec ça. Puis Puis chaque époque a eu ses hurlus-berlus, puis a eu ses problèmes. Tu sais, à une certaine époque, on forçait les gens à se marier ensemble quand ils restaient dans la même rue, là, au Québec, là, je veux dire. On a eu... Chaque époque a eu ses problèmes.
Les cousins et les cousines?
À un moment donné, c'était tout le monde qui fumait. À un moment donné, c'est tout le monde qui prenait des drogues en même temps. Le peace and love, l'amour éternel. Finalement, ça marche pas. On fait des manifestations violentes, je veux dire. Il y a pas une époque qui est parfaite, puis à un moment donné, on s'en sort. Mais là, on est dans une époque où on prend... dans le bac à fou, ce qui traîne, ce qui fait le plus de bruit, ce qui fait le moins réfléchir et ce qui fait réagir le plus. C'est pas pour rien que Radio-Canada défend sa chroniqueuse en fin de semaine. Ils ont vu le nombre de clics, ils ont vu le nombre de commentaires, puis ils se sont dit « on peut pas enlever ça, on a besoin de ces clics-là pour vivre ». On est tous pognés un peu dans le même engrenage. Une station de radio qui partage des extraits va avoir tendance à mettre beaucoup de mots en lettres majuscules puis beaucoup de points d'exclamation au point, et je le sais parce que je l'ai vécu à une autre époque, où l'invité du segment appelle. Il dit « Hey, le titre que vous avez mis là me fait passer pour un Christy de cave, puis c'est pas ça que j'ai dit. Enlevez ça de là, tu sais. » Mais on est rendu à une époque comme ça. Et même Radio-Canada tombe dans le piège. Là, ça prend des fous. Il faut les piger dans le bac à fous. Il faut sortir ce qu'il y a de plus out there, de plus exagéré, de plus extrémiste. Puis il faut faire semblant que c'est ça le way to go en 2026. Non merci pour moi. J'essaye d'aller de l'autre bord, puis si je meurs en allant de l'autre bord, puis en essayant, je sais pas, d'avoir une conversation intelligente entre gens qui voient pas la vie de la même façon, mais qui sont pas dans les extrêmes, ben quand je vais perdre ma job, je serai pas nécessairement déçu, je vais me dire, ben au moins j'ai essayé de tirer à couvert du bon bord. L'extrême centre.
Vive l'extrême centre.
Vive l'extrême centre. Yes. Ouais. Boulevard 102-1, l'extrême centre. C'est nous autres, ça. Maudit ben, centriste.
On parle de sujets qui touchent un peu plus les gens. On va se dire.
Oui.
Ce qui se passe au centre-ville de Québec, je l'appelle amicalement le ghetto. C'est chez nous. Je suis revenu chez nous. J'ai passé 30 ans à Saint-Roch. Je me promenais un peu au travers de ça. Mais à total, tout 30 ans à Saint-Roch. Puis là, je suis revenu dans un immeuble à condo dans ce secteur-là. Puis. Je suis dans le ghetto. Et je constate qu'il y a des problèmes d'alcoolisme. Je constate qu'il y a de plus en plus de problèmes de toxicomanie. Il y a énormément de gens qui sont sans-abri. Moi, ce que j'ai vu, OK, je peux pas parler pour les autres, mais moi, ce que j'ai vu, c'est des policiers qui étaient très avenants, des policiers qui étaient très polis, des policiers qui étaient doux, bienveillants à l'égard des sans-abri. Okay?
Est-ce que le port de l'uniforme est une forme de misogynie, d'après toi? Il y aurait un livre à écrire là-dessus.
En plus, tu as dit le mot « port ».
Oui, c'est
moi, je fais des liens.
La police de Québec agit très bien à chaque fois que je les vois. C'est pas une étude scientifique. Moi, je les vois aller, me lève le samedi puis le dimanche matin, m'en va me promener sur Saint-Joseph, puis je vois les policières qui sont là rencontrer chaque sans-abri, qui sont couchés devant les commerces, puis disent « Hey, tu peux aller à tel parc, tu peux aller à l'Aube-Rivière, c'est fin, tu peux faire si t'as-tu besoin de quelque chose. » C'est des gens qui sont bienveillants, puis il y a eu comme une critique du milieu communautaire hier à l'égard de la police de Québec. En passant, les policiers de Québec puis les policières de Québec, là, c'est pas leur job d'être des psychiatres, des psychologues, des travailleurs de rue.
Ils le deviennent malgré tout, là.
Et ça, puis ils le font, puis ils sont pas payés pour ça. Normalement, c'est pour courir après les méchants. Et ils le font, puis ils essaient de s'occuper de ça. Puis de voir les critiques du milieu communautaire, puis je sais pas, Jeff, si vous en avez parlé hier sur l'heure du
midi. Ben écoute, ça tombe bien, parce que j'ai eu Josiane Mondou, intervenante chez Droit de Cité, en entrevue.
Puis, c'était
puis
quoi,
je vais mettre des bémols, là. T'sais, c'est pas des grosses critiques, c'est que elle a tout simplement mis à l'avant-plan certains gestes qu'elle croit qu'ils ne devraient pas être faits. Par exemple, elle a vu des policiers enlever des parasols à des personnes itinérantes en journée de grande chaleur parce que c'était considéré comme un équipement de campement. Elle dit, le parasol est accroché après leur truc.
C'est pour faire
qu'ils amènent. On a beaucoup parlé pour enlever le stéréotype de la consommation de drogue chez les personnes itinérantes. Parce que, dans le fond, leur point à droite au départ, c'était de dire, faudrait pas que les policiers enlèvent aux personnes itinérantes les équipements stériles de consommation. Parce que nous, on fait un travail avec eux dans le centre supervisé pour qu'ils arrêtent de prendre de la drogue. Mais en attendant, on aime mieux qu'ils prennent de la drogue avec un équipement stérilisé qui ne leur donnera pas de maladie qu'avec n'importe quoi qui traîne dans la rue.
Ça a du
C'était
sens.
Ça leurs deux okay. points.
Mais il n'y avait pas de violence à l'égard des
personnes. Du tout,
Okay. Parce que là, je suis un peu d'accord avec le maire Marchand. La police de Québec fait une Christie de belle job.
Ben, c'est pas une job facile. Moi, personnellement, c'est pas une job que je ferais. Je pense que j'aurais pas la patience nécessaire. Puis je sais pas si vous avez abordé ça dans l'entrevue d'hier, Jeff, mais est-ce que les policiers sont obligés d'intervenir quand, par exemple, les itinérants deviennent violents, deviennent agresseurs, deviennent dangereux? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va peut-être saisir de l'équipement ou saisir du matériel pour s'injecter des drogues? Moi, j'ai l'impression, puis je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les polices font pas des fouilles systématiques avec des itinérants qui traînent sur le bord d'un mur de briques. Mais on le sait, l'itinérance a changé de visage, l'itinérance prend plus de place. Puis on se sent moins en sécurité quand on se promène dans Saint-Roch, quand on voit un gars qui se promène puis qui donne des coups de poing en faisant l'hélicoptère dans le vide, puis en criant après tout le monde.
Moi, en face de chez nous, là, c'était la pipe à crack qui était sortie cet été. Il y avait trois gars qui étaient en train de fumer du crack. Puis mes gars, on était en char, puis on a passé à côté, puis on a rentré dans mon immeuble. Puis ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'ils faisaient, les messieurs, papa? » C'est le genre de choses que je veux pas voir. Puis quand la police arrive, puis tasse les gars pour dire « Vous avez pas d'affaires là, c'est un endroit public. Allez-vous-en à telle place, telle place, telle place. » Je juge que la police fait une christie de belle job.
Ça m'amène à une autre théorie, Yann. Quand un commerçant s'en va voir une police pour y dire « Écoute, ça fait deux semaines qu'ils sont quatre à fumer du crack pendant mes heures d'ouverture, en avant de mon commerce. Ils se cachent même plus. Faites quelque chose. » Moi, il n'y a plus personne qui rentre chez nous. Tu sais, ça amène des circonstances à un moment donné. Puis c'est vrai, c'est plus out in the open que ça n'a pas été depuis longtemps à Saint-Roch, depuis le mail. C'est pas compliqué.
À côté de l'Aubrivière, tu as deux abribus. Un pour l'ouest, un pour l'est. Ben, ces deux abribus-là appartiennent plus aux utilisateurs du RTC. C'est les gens qui vont manger à l'Aubrivière, qui n'ont pas de maison, qui élisent domicile à cet endroit-là, puis toute la journée, ils prennent de la bière en gang. Ils se tiennent là. La police les tolère, là.
Tu sais, il y a une limite, j'imagine, à ce que tu peux tolérer, puis j'imagine que quand il y a des commerçants ou des résidents qui te disent, ben là, intervenez, là, parce que nous autres, à un moment donné, si vous le faites pas, on va être obligés de le faire, puis ce sera pas élégant. J'imagine que c'est de ça qu'on parle quand on parle du travail qui est pas facile du policier. Puis je comprends le message des groupes d'intervenants, puis c'est peut-être, je pense, productif rendu là, d'asseoir des responsables des polices de Québec, puis des responsables des groupes d'aide, puis peut-être d'échanger là-dessus, puis de fixer ensemble un accord pour dire « Nous autres, on peut endurer certaines choses jusqu'à une certaine limite. » Mais quand les citoyens et les commerçants nous demandent d'intervenir dans certaines situations où, justement, un commerce est en péril parce qu'il y a 8 personnes qui fument du crack en avant puis qui se cachent même plus pour le faire, c'est un peu la job du policier d'intervenir, même si on laisse passer beaucoup de choses. Puis Christy, que l'équilibre, présentement, doit pas être facile à maintenir.
Non, vraiment pas.
Ni pour les groupes d'intervention, ni pour les policiers, ni pour les résidents comme Marceau, ni pour les commerces qui sont encore là-bas. Là, c'est pas évident.
Je suis entièrement d'accord. Puis d'ailleurs, ça part du fait que malheureusement, il n'y a pas assez de place dans les organismes pour les personnes itinérantes. Sinon, il n'y aurait pas domicile dans les abribus que tu parles. C'est une des problématiques qu'il faut régler à la base.
Écoute, la solution, c'est-tu la tolérance? Parce que, je veux dire, ça fait des années qu'il l'essaye, la tolérance. Là.
Mais tu peux pas.
À un moment donné, ça peut-tu être l'intolérance? C'est-à-dire, les abris d'autobus sont réservés aux utilisateurs du RTC?
Je pense pas. C'est parce que tu peux pas.
C'est extrême, ça, de dire.
Oui, parce que tu déplaces le problème. Le problème ne s'en ira pas. Ils iront pas se pitcher dans Saint-Charles. Là. Ils vont juste élire domicile ailleurs.
Ouais, puis peut-être que c'est mieux qu'il soit dans l'abribus que dans le portique d'un commerce.
Oui, absolument.
Je réfléchis à voir. J'ai pas de piste de solution.
Puis c'est pas évident. L'image qui m'a sauté aux yeux cet été, quand je suis allé aux abords de l'Aubrivière un dimanche, justement, où il y a eu des débordements, je me disais, c'est un tailgate de la misère.
Oui, t'as raison.
Tout le monde est installé dehors, comme au parking du PEPS de l'Université Laval. Ouais. Tout le monde est installé dehors du mieux qu'ils peuvent. Mais ils peuvent pas, tu sais, tu peux pas, les policiers peuvent pas arriver et dire, hey, ramassez vos affaires, Samson, vous met en prison. Tu peux pas faire ça.
Ouais. Ils le font, mais avec bienveillance, comme je vous dis. Moi,
exact.
Les deux policières que j'ai vues, là, parlaient doucement, proposaient des bancs de parc qui étaient disponibles. Tu sais, on peut pas reprocher à ces policières-là de faire cette job-là de cette manière.
En effet.
Je pense pas. Puis c'est un immense éléphant qu'on doit prendre une tranche à la fois. C'est de travailler avec les itinérants pour essayer de les raccrocher à une routine qui va faire en sorte qu'ils vont être en mesure d'avoir un appartement, d'avoir un endroit pour se loger, d'avoir un ami qui va les prendre en charge le temps qu'ils se trouvent une petite job-in. Puis C'est pas je veux dire, on fera pas de miracle en dedans d'un an pour sauver Saint-Roch, entre guillemets, mais maintenir l'équilibre, puis pas transformer ça en guerre des classes ou en affrontement ouvert entre les policiers, puis les itinérants, puis les gens qui interviennent de façon quotidienne. Parce que, imaginez-vous qu'à tous les matins, il y a des gens qui font une run de lait pour ramasser des seringues à la grandeur de la ville. Si ces gens-là décident que ça vaut plus la peine, parce que les policiers, de toute façon, font de la répression, puis ça ne leur tente plus de ramasser les seringues dans un climat comme celui-là. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Tu sais, je pense, en parlant, je vous dis que ça prend pas grand-chose pour perdre le contrôle de l'écosystème. Puis les policiers, parfois, doivent sévir, parfois, doivent diriger. Puis les gens qui interviennent doivent comprendre ça aussi. Moi, ce qui m'étonne, c'est pas que des fois, il y a des dérapages. Ce qui m'étonne, c'est que là, en 2026, avec le nombre d'itinérants qui débordent partout, c'est qu'on ait encore réussi relativement à garder l'équilibre. Il n'y a pas de confrontation ouverte. Il y a des gens qui dénoncent certaines choses, puis c'est normal, il faut se parler. Il y a des commerces qui ont fermé, puis c'est dommage. Mais le climat social aurait pu être bien pire, je pense, si on avait décidé d'utiliser la méthode un peu plus forte. Parce que là, tu vas amener des manifestants, tu vas amener des gens qui vont dire...
Commerçants se radicalisent. T'sais, on a vu...
Ils sont tannés, c'est sûr.
C'est pas un exemple, malgré le fait que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Napoléon Houle. Là.
Ouais.
Il disait, là, si ramassez-moi ça, puis crissez-moi ça ailleurs, parce qu'il est plus capable. Lui, il est carrément dans l'endroit où ça brasse le plus, tout le tour de sa bâtisse.
Ouais.
Il y a des gens qui font leurs besoins là, qui traînent là, qui boivent. Puis là, ben lui, il veut faire rentrer des clients dans son restaurant. Ça fait peur aux clients, malgré que le restaurant est fermé depuis une couple de mois maintenant. Mais il y a des commerçants qui se radicalisent, puis... T'sais, les commerçants disent, nous autres, on paye assez de taxes commerciales. Pourquoi la police fait pas ça? La police tente de faire son mieux.
Imagine-toi la job de marde. Les groupes communautaires
qui disent aux policiers, ben là, faudrait pas enlever les parasols parce que là, ils se protègent en été pour qu'il y ait un peu plus d'ombre et qu'il fasse un peu moins chaud. L'équilibre, comme tu dis, là, est fragile en sacrifice.
Tu deviens un médiateur. Tu deviens un Lucien Bouchard. Tu sais, c'est parce que t'as les commerçants d'un bar qui te disent, ben là, passez à gratte puis débarrassez-moi ça. Je veux dire, on va fermer, on n'est plus capable de faire de la business, puis ainsi de suite. Puis de l'autre bord, ben t'as les organismes qui disent, écoutez, il y a plus de gens dans misère, faut continuer de les aider, faut continuer de les encadrer. C'est pas avec de la répression qu'on va leur rendre service. Puis t'as le policier en sandwich entre les deux. Je veux pas vous jouer du violon triste, c'est force de l'ordre, mais personnellement, c'est pas une job que je ferais. Puis à partir du moment où je ne ferais pas une job, je m'oblige à avoir du respect et de l'admiration pour les gens qui le font. J'irai pas intervenir en Afghanistan dans une guerre et un conflit que je comprends pas. J'ai énormément de respect pour les gens qui sont dans les forces armées canadiennes puis qui interviennent sans trop poser de questions pour aller faire de la job sale pour qu'on maintienne un semblant de démocratie ici. Des policiers qui s'en vont dans Saint-Roch puis qui transigent puis qui jasent avec, d'un côté, les sans-abri. D'un côté, les organismes qui les aident. De l'autre côté, des citoyens et des commerçants qui en ont plein les bottines et qui sont écœurés. Je ne ferai pas le job. Et juste pour cette raison-là, j'ai énormément de respect et d'admiration pour le travail qu'ils font.
Pareil pour moi.
Ce sera jamais sans bavure. Mais dans un climat comme on a actuellement, qui est si peu d'incidents, je trouve ça presque miraculeux.
Question bien personnelle, Denis, si on se réfère à la conscription de 1917-1918 où les hommes pas mariés devaient aller à la guerre, faire s'enrôler comme militaire, qu'est-ce que tu aurais choisi? Aller à la guerre, te marier ou t'estropier?
Je me serais probablement mutilé. J'aurais aimé écrire Le Déserteur, mais quelqu'un l'a fait avant.
Oui, merci Denis. Salut, à tantôt, 14h. Bye bye. Max?
C'est le bon bordel encore sur les routes, l'heure de pointe qui s'étire pas mal. Le Capital West, là, c'est encore bien jamé un peu après Seigneurial jusqu'à Laurentienne Sud, entre le boulevard Le Bourgneuf et Capital, c'est au rouge aussi. Capital Est, hauteur Robert Bourassa au ralenti. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, encore au rouge. Henri 4 Sud, très compliqué, toujours avant Sainte-Geneviève jusqu'à Chauveau-Ouest. La 40 Est, là, par bout aussi, c'est tough, là, particulièrement entre Henri 4 et Duplessis, secteur des ponts, c'est encore très difficile.
Merci beaucoup. 8h29, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire, c'est par texto 88 971 1021.